La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Marie-Noël Arras, co-rédactrice en chef de la revue Étoile d'encre et co-fondatrice de la maison d'édition Chèvrefeuille étoilée. Et vous venez nous présenter le dernier numéro de la revue qui a pour titre Algérie 60 ans. Bonjour.
Bonjour.
Alors Marie-Noël Arras, avant de parler de ce volume consacré au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette belle revue Étoile d'encre, une revue de femmes en Méditerranée qui a déjà 23 ans?
Oui, l'histoire, en fait, là on fait l'anniversaire des 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Hein. Donc juste après la guerre, ça fait 60 ans que l'Algérie est indépendante, mais nous, les femmes qui avons créé cette revue, Maïssa B, Béja Traversac, Edith Adri et moi-même, nous l'avons créée non pas après la guerre d'Algérie, qui était donc une guerre de colonisateurs à coloniser, mais après les 10 années de guerre fratricide entre les Algériens. Et donc, pendant ces années où il était très difficile de vivre en Algérie tout en restant vivant, mais aussi bien les Algériens que les étrangers, nous avons été un grand nombre d'ailleurs de femmes qui se sont soit exilées, soit repliées, comme moi en tant que Française, à Montpellier. Et à partir de là, on a fait une grande action pour les femmes d'Algérie, pour faire connaître la culture algérienne. Et quand la paix, entre guillemets, est revenue en 2000, on s'est dit, il faut aller plus loin. Et donc, on a décidé, Maïssa B venant de publier son premier roman, on a décidé de donner la parole aux femmes à travers une revue. Et très vite, on a décidé que ce ne serait pas seulement une revue, mais une maison d'édition.
Marie-Noël Arras, vous nous avez dit que vous aviez été obligée de quitter l'Algérie.
En fait, mon histoire personnelle importe peu, mais je suis partie en Algérie en 1978 pour y vivre avec mon mari et mes 3 enfants. Donc, j'ai vécu là-bas, à Sidi Bel Abbès, pendant de nombreuses années. Et au moment, donc, en 92, si je ne m'abuse, où les islamistes ont décrété que toute personne étrangère était responsable de sa mort, si elle restait sur le sol algérien, à Sidi Bel Abbès, donc, il y a eu le premier étranger français à être tué. Donc, sur la route entre Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchen, où il prenait des métrés. Et donc, c'était franchement dangereux. J'avais mes 2 filles étudiantes à Montpellier, donc je suis revenue à Montpellier en pensant que ça durerait peut-être 2 ans. Et en fait, ça a duré plus de 5 ans où j'ai pas pu remettre les pieds en Algérie. J'enseignais le français langue étrangère et les derniers mois où on a fait des cours à l'école de française de Bel Abbès, il y avait un policier algérien qui nous protégeait derrière la porte avec un revolver.
Et donc, ce lien avec l'Algérie s'est poursuivi avec cette revue. Quelle est la ligne éditoriale de la revue?
Alors, la ligne éditoriale, elle est très claire. C'est une revue de femmes en Méditerranée qui a été créée donc à la fois en Algérie, dans une association qu'on a appelée Parole Écriture, et à Montpellier. En Algérie, pourquoi Maïssa B et moi étions amies? Maïssa B, auteur de romans et de nouvelles en algérienne, étions amis à Sidi Bel Abbès, où je résidais avec mon mari. Et donc, nous voulions vraiment porter la parole des femmes de là-bas. Donc, on a créé une association avec des ateliers d'écriture, etc. L'association a été domiciliée chez moi. Et ensuite, très vite, donc on a créé la maison d'édition dans la même ligne éditoriale. Édition de femmes en Méditerranée. Ça s'est élargi et la revue s'est élargie aussi. C'est-à-dire que les autrices de la revue, les écrivaines qui ont voulu écrire dans la revue ne sont plus seulement de la Méditerranée. Et ça n'a plus d'importance. La ligne éditoriale restant à 99,5% femmes, féministes, mais il y a aussi une partie d'hommes, comme celui que vous connaissez bien, Djilali Benchir, qui a écrit. À partir du moment où c'est des livres collectifs, il peut y avoir des hommes.
Il y a eu notamment un très beau livre collectif dédié à SOS Méditerranée.
Absolument, grâce à Monique Serro-Chaibi qui nous a proposé les textes qu'elle avait collectés. C'est la revue Étoile d'encre, un hors-série au cœur de l'errance, qui est toujours vendu, dont le produit des ventes part à la SOS Méditerranée.
Alors, ce n'est pas la première fois, Marie-Noël Arras, que la revue célèbre l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Vous avez célébré les 40 ans, puis les 50 ans de cette indépendance. Et qu'est-ce que vous retenez de tous les écrits qui ont été publiés ces 20 dernières années dans votre revue sur l'indépendance? Et pourquoi, finalement, avez-vous éprouvé le besoin d'ajouter encore des textes?
Eh bien, parce que, de toute façon, les choses bougent, évoluent. Justement, avant de venir, j'ai feuilleté en vitesse celle de 2003. On l'avait sortie en 2003 parce que c'était l'année de l'Algérie en France. Donc, c'était les 40 ans. On l'a sortie un an après. J'ai feuilleté celle des 50 ans où on avait publié un texte entier d'une femme qui avait écrit un journal à cette époque-là, qui a milité, une Française, qui a milité pour l'Algérie. Il y a des auteurs qui sont encore là. J'ai vu que, par exemple, évidemment, Maïssa B, à travers ça, en tant que responsable en plus, mais il y a aussi, par exemple, Wassila Tamzali, qui a publié dès les 40 ans, Leïla Sebar, même des auteurs qui ne sont pas algériennes, comme Valérie Menadier, qu'on a publié très souvent. Donc, ces auteurs sont encore là, mais d'autres sont arrivés, d'autres se sont ajoutés. Et puis, surtout, l'Algérie a bougé.
Alors, l'Algérie a bougé, Marie-Noël Arras, et vous donnez la parole à une jeune Algérienne qui est née longtemps après l'indépendance. Il s'agit d'une peintre que vous m'avez fait découvrir, El Meya, je ne la connaissais pas. C'est d'ailleurs une de ses peintures qui a été choisie pour la couverture de ce numéro Algérie 60 ans. Une peinture intitulée Les Moudjahidat, trois femmes, trois héroïnes, en vêtements kaki qui semblent danser avec des drapeaux algériens. C'est une manière de rendre hommage aux femmes qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie, des femmes dont certaines étaient très jeunes.
Dont beaucoup étaient très jeunes. Et en lisant les textes, justement, et en lisant le témoignage de Nelly Forget, qui a travaillé longtemps avec Germaine Tillon, en lisant Mildred Mortimer, femme de lutte et d'écriture, où elle parle justement de toutes ces moudjahidettes qui sont parties, j'ai vu qu'il y avait aussi quand même pas mal de Françaises qui habitaient là-bas, soit mariés avec des Algériens, soit pas du tout, soit travaillant en Algérie, et qui ont voulu aussi aider la cause algérienne. Nous, on est des femmes, et évidemment, la première chose, c'est de mettre à l'honneur des femmes. Et quand Maya, que je voulais rencontrer, et je voulais la faire participer à la revue il y a déjà au moins 5 ans, ça, c'est pas fait pour d'autres raisons, mais quand Maya, je lui ai dit, elle Maya, mais qui s'appelle Maya, je lui ai dit, eh ben, j'ai envie de travailler avec toi pour cette revue. Aussitôt, les 5 premières peintures qu'elle m'a envoyées, il y avait ces moudjahidettes. Et ça, pour moi, ça a été une évidence que ça allait être la couverture de la revue. Et j'ai fait un entretien avec elle, peut-être je peux vous lire le passage où
avec
elle en parle.
Avec grand plaisir.
Voilà. Donc, je lui dis à cette occasion, pour le portrait que je t'ai demandé, tu t'es fait photographier dans la peinture que tu nous as proposée pour la couverture de la revue. Des femmes, en tenue de l'armée, telles que l'on représente les moudjahidettes. Ces femmes qui sont montées au maquis et ont combattu à côté des hommes pour libérer leur pays, l'Algérie. Tu es née dans une Algérie indépendante depuis 26 ans, te sens-tu redevable à ces femmes et te ressens-tu comme leur héritière? Elle me répond, tu fais bien de souligner ce rapport entre mon portrait et la photo de la couverture. C'est un choix délibéré que j'ai bien pensé avant la prise de photo. Quelque part, je voulais m'immortaliser avec mes personnages qui sont là, en hommage aux Moudjahidettes, à la recherche peut-être d'une identification ou comme tu le dis, d'un héritage. Je voulais me voir avec elles, à travers elles, pour mieux les comprendre et me comprendre. Ces moudjahidettes, ou mes moudjahidettes, j'ai essayé de les comprendre, de comprendre ce qu'elles ont porté, ce qu'elles portent. J'ai essayé de comprendre comment des femmes de 15, 16 ans sont montées au maquis, avec toutes les peurs, douleurs et souffrances que ce choix de vie peut porter. Je cherche à travers elles des femmes auxquelles je peux et nous pouvons nous identifier. Des femmes faites de chair, avec leur histoire personnelle, loin de l'image symbole. Est-ce que je me sens redevable? Je ne pense pas, mais chanceuse d'avoir en héritage ces grandes femmes et leur grande histoire. Et mon devoir aujourd'hui, c'est de leur rendre hommage, comme je le peux, à travers ma peinture, et surtout aujourd'hui. Dans cette peinture, je mets les moudjahidettes au centre du sujet et du tableau, avec un questionnement autour de leur représentation. De quelle façon rendre accessibles ces femmes symboles d'héroïsme? Comment transmettre la peinture, la bravoure, le courage et la grandeur de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont accompli. Elle en dit plus, mais je m'arrêterai là. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai tenu à une chose, c'est que par-dessus, dans sa peinture, il n'y a pas les noms des Moudjahidettes. Et moi, j'ai absolument voulu ajouter... Alors évidemment, il y en a 10 900 et quelques qui sont recensés au ministère algérien. Donc, c'était impossible de les mettre toutes. J'ai passé 3 ou 4 jours sur Internet pour en trouver. J'ai dû en trouver 190 à travers les histoires comme ça qu'on peut trouver. Mais là, au moins, j'ai mis ce que j'ai pu autour de ces femmes dans les 3 couleurs qui sont les couleurs du drapeau algérien. Il y a des noms français, il y a des noms algériens. Il y a une Alice, par exemple, c'est Alice Cherki, qui est connue, psychiatre.
Et spécialiste de France Fanon.
De France Fanon, voilà. Il y a Djamila Hassiba. Alors, par exemple, il y a 5 Djamila. J'en ai trouvé 5, donc j'en ai mis qu'une. Hassiba aussi, il y en a plusieurs. Alors, il y a les plus connus que tout le monde...
qui ont Djamila Boupacha, par
exemple. Exactement.
Et Djamila Bouhired.
Djamila Bouhired. J'ai mis aussi en hommage parce que, voilà, c'est le dernier numéro et je voulais qu'il y ait quelque chose de personnel, comme on met une petite signature. J'ai mis aussi Rkaya Leila, qui est la sœur de mon mari, qui est montée au maquis quand elle avait 18 ans et qu'ils n'ont jamais revue, dont ils n'ont même pas eu le corps. Et elle a juste... en hommage, juste une petite rue dans un petit village où elle est née, à Marcy-Lacombe autrefois et Suizef maintenant. C'est tout. Peut-être qu'elle a aussi une école, je ne suis pas sûre. Mais donc, elle est là aussi. Voilà.
Et donc, j'invite nos auditeurs à se reporter à votre site internet et puis aux réseaux sociaux de Radio Orient, puisqu'on va bien sûr diffuser la couverture de ce numéro spécial. Vous avez tenu à lire un extrait de ce numéro. Vous êtes aussi... une lectrice, Marie-Noëlle Arras. C'est important aussi, la lecture à voix haute. Et effectivement, quand on est sur une radio, quelle chance de pouvoir entendre une version audio d'un texte imprimé.
Oui, oui. C'est une formation que j'ai eue quand je me suis, donc j'appelle ça repliée à Montpellier. J'ai rencontré un metteur en scène formidable. On a créé une association de lecture à haute voix et j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Et donc, ça m'a permis de donner à entendre les textes.
Un numéro consacré à l'indépendance de l'Algérie, c'est évidemment un livre d'histoire avec des histoires. Et vous nous apprenez ce qui s'est passé en Algérie avec un service appelé Service des centres sociaux.
Ah oui.
Qui a été créé, je crois, par Germaine Tillon.
Absolument.
Et qui a été la cible d'un assassinat ciblé. 3 Algériens qui aimaient la France... 3 Français qui aimaient l'Algérie.
Exactement, oui.
Ont été assassinés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces centres sociaux en Algérie? Quelle était leur activité?
Alors, moi, personnellement, évidemment, je ne les ai pas connus puisque je suis arrivée en Algérie en 1978, donc bien après l'indépendance. Mais ce que dit Nelly Fourgette, qui habite à Paris et qui vit jusqu'à aujourd'hui, elle s'occupe des papiers de Germaine Tillon. Elle a été sa secrétaire. Elle l'a accompagnée dans toutes ses démarches. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que ces services de centres sociaux ont été créés pour aller dans les villages, dans les endroits, dans les cités, là où il n'y avait pas de dispensaire, là où il n'y avait presque pas d'éducation, là où il n'y avait pas d'école pour les Algériens. Et donc, c'était pour donner aux femmes et aux enfants en particulier, non seulement des soins, mais aussi une éducation. Elle explique qu'il y a plein d'enfants qui sont sortis de là avec des métiers, avec des choses. Et les femmes, elles ont appris des tas de choses. Et non seulement, donc, ils donnaient des soins, mais vraiment, ils ont formé. Donc, ça a été formidable. Mais ils n'ont pas été aidés par le gouvernement. Disons que peut-être, je ne connais pas toute l'histoire, peut-être qu'au début, bien sûr, puisqu'ils existaient, ils avaient le droit d'exister, mais ils n'ont pas été protégés. Au moment où il y avait la guerre et des attentats, etc., ils n'ont pas été protégés. Elle dit un attentat ciblé au cours d'une réunion de travail où chacune des victimes a été appelée par son nom, donc avant d'être tuée. Et ça, ça rappelle des choses. Marcel Bassé, Robert Aymar, Ali Hamouten, Max Marchand, Mouloud Feraoun, Salah Hould Aoudia, 3 Algériens qui aimaient la France, 3 Français qui aimaient l'Algérie. Et à propos de Mouloud Feraoun, il y a un autre texte qui vient de Manuel Roche, qui était en Algérie marié avec un architecte, André Ravero, très connu en Algérie. Et donc, elle était à Alger au moment de la mort de Mouloud Feraoun. Elle était avec Charlot, l'éditeur bien connu, et elle retrace dans son journal que sa fille a retrouvé, parce qu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps, et sa fille a donné toutes les archives de ses parents au MUCEM.
Donc, à Marseille.
À Marseille, oui. Et elle a retrouvé donc ce passage de son journal où elle apprend que Mouloud Feraoun est mort et les réactions, et tout est là. Quoi.
Et c'est un document inestimable.
Absolument.
Que vous publiez pour la première fois.
Pour la première fois.
Alors, ce numéro spécial Algérie 60 ans publié par la revue Étoile d'encre convoque toutes les mémoires. S'il y a la joie, la liesse qui accompagne l'indépendance, il y a aussi tous ces récits dramatiques qu'on vient d'évoquer. Mmh. Ainsi, Sadia Barèche raconte l'horreur d'un attentat sous le tunnel des facultés alors qu'elle sort d'une représentation du Cid interprétée par la troupe de la Comédie française qui venait tester ses pièces à Alger. Elle écrit « La guerre d'Algérie ne s'est pas terminée le 19 mars 1962, après les accords d'Évian. » Elle dit que elle a même fait plus de victimes après sa fin officielle qu'avant.
Oui.
C'est un récit poignant qui raconte les crimes commis par l'OAS.
Absolument. Et ce qui est poignant aussi, c'est que donc Sadia Barèche, qui fait partie de Coup de Soleil, qui œuvre beaucoup pour le Maghreb des Livres, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Sadia Barèche, elle avait... Vous savez, la mémoire traumatique. Donc, on oublie les événements qui nous ont énormément traumatisés. Et elle avait oublié, quelque part, cet événement qui était dramatique pour une jeune fille de son âge. Elle avait, je crois, 15 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est le vendredi 13 novembre 2015, quand elle entend ou elle voit à la télé ce qui se passe au Bataclan, qu'elle se met, elle le raconte là, qu'elle se met à trembler, qu'elle se met à pleurer. Elle savait qu'elle n'avait personne là-bas. Il n'y avait pas de raison. Bien sûr, il y a une raison, on a tous été terrifiés. Mais c'était trop, c'était plus que normal. Et là, lui est revenu les images dans le tunnel des facs à Oran. Ça a été terrible. Et donc, elle le raconte ici. Elle raconte comment ça s'est passé. Ouais, je n'ai pas trop envie de raconter la scène d'horreur. On se
reportera à voilà. Ce numéro. Alors, j'ai lu que c'était le dernier numéro de la revue Étoile d'encre. Pourquoi ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Ah oui, c'est le dernier numéro. Mais en fait, c'est le dernier numéro parce que on a fêté nos 20 ans juste avant le confinement. Et puis en fait, si vous voulez, les forces s'usent. Et je fais un appel à la radio, si quelqu'un veut venir nous donner un coup de main, les forces humaines. Je m'occupe entièrement du graphisme de la revue. Je fais entièrement la mise en page. Donc, j'essaie que chaque texte ait un sens avec celui qui suit. Donc, bon, il arrive un moment où on peut passer le relais, effectivement. Il y a plein de revues. Donc, les femmes là, qui ont eu de la peine parce qu'elles ne pourront plus être éditées dans Étoile d'encre, elles pourront être éditées ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais on continue avec Chèvrefeuille étoilée.
Merci Marie-Noëlle Arras. Je rappelle que vous avez coordonné ce numéro Algérie 60 ans de Étoile d'encre, revue de femmes en Méditerranée. Merci d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
Merci à vous surtout de m'avoir invité, Loïc Barrière.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.